Bukati. Pour que la paix ne soit pas qu'une dérive.
Le suicide par pendaison est devenu une pratique courante à Kikwit. Il ne se passe pas un mois sans qu'on enregistre un cas de suicide dans la ville. 20 cas ont été dénombrés de 2006 à avril 2007 par la police criminelle de Kikwit. Les raisons de ces pendaisons sont interprétées de diverses manières. Le maire de la ville de Kikwit a même condamné cette habitude de se donner la mort parmi les jeunes le 1er mai à l'occasion de la journée du travail. Les églises de la place attirent aussi l'attention de leurs fidèles de ne pas recourir au suicide malgré les difficultés rencontrées dans la vie. On en saura un peu plus. Qu'est-ce qui arrive à la population de Kikwit? Pourquoi elles agissent ainsi? Nous aurons à faire le point avec notre confrère Fabien Cambisi qui s'est penché sur la question. Alors Fabien, vous êtes en ligne?
Oui, JR, je suis en ligne.
Alors Fabien, les suicides par pendaison sont devenus monnaie courante à Kikwit. À quoi est dû cela?
Oui, JR, pour votre information, Kikwit est une ville habitée par plus de 600 000 âmes. Les jeunes dominent la population. Il y a quelques années, JR, les jeunes avaient tourné leur regard vers l'Angola pour l'exploitation du diamant. Avec les expulsions qui ont eu lieu dernièrement, la plupart sont revenus, mais brevis alors. Sans emploi, ils se sentent abandonnés à eux-mêmes. Mais pour répondre à votre question, JR, effectivement, il ne se passe pas un mois sans qu'on enregistre ici à Kikwit un cas de suicide à Kikwit. De décembre 2006 à avril 2007, la police criminelle a dénombré 20 cas.
20 cas. Alors, quelle est la réaction des autorités de la ville?
Le maire a toujours condamné cette pratique. Il a même rappelé qu'à l'époque coloniale, les cadavres de toute personne qui se suicidait étaient fouettés par les agents de l'ordre avant d'être enterrés. Les églises ont tiré aussi leurs sonnettes d'alarme pour demander que cesse cette pratique dans les mœurs de la population de Kikwit. Je vous propose d'écouter à ce sujet Monseigneur Joseph Mundongo, président de l'SCC Bandundu.
Cette question de pendaison est très préoccupante dans la ville de Kikwit. Si vous prenez l'année 2006 et avril 2007, nous avons connu presque 20 cas de décès par pendaison, ce qui est très très inquiétant pour une population estimée à plus de 600 000 habitants. Et vous avez une moyenne là de plus ou moins une personne par mois qui meurt de pendaison dans la ville. Et si vous prenez ces personnes par rapport à leur tranche d'âge, ce sont les jeunes de 10 à 25 ans qui sont élèves de primaire ou en secondaire. Et selon les informations que j'ai reçues des mairies, qui est un service de l'église sur des urgences, il n'y a apparemment aucun parent ou aucun étudiant qui est en institution supérieure. Mais nous avons enregistré un cas d'un parent qui s'appelle Papa Maïel Epolin, mais du village Bujimbila, secteur de Yassaloukwa, qui est quand arrivé le 30 mars de cette année dans les territoires du Djofa. Donc voilà à peu près la situation qui est très très inquiétante. Les raisons principales sont 6. Les 4 sont liées à la pauvreté et 2 sont liées à une situation socio-spirituelle. Notre appel, c'est d'abord un appel urgent à la population qui doit craindre d'abord Dieu, qui est auteur de la vie. Personne parmi nous, quelle sorte de difficulté, ne peut soustraire sa vie. Parce que la vie, comme on le dit, la vie est sacrée.
La vie est sacrée, Fabien. Que pense la police criminelle qui est spécialisée aussi dans ce genre d'enquête?
JR, selon les enquêtes menées par la police criminelle, les jeunes dont l'âge varie entre 17 et 35 ans viennent en tête de ces nombreux cas de suicides. Selon toujours elle, aucune commune de la ville n'est épargnée. Mais les quartiers les plus ciblés sont ceux de Ndekezulu et Lumbi dans la commune d'Ndinda, Kanzombi, Wenze et Etak dans la commune de Lukemi, 30 juin à Kazamba et Lumia dans la commune de Lukolela.
Enfin, peut-on connaître les raisons évoquées par la police et qui poussent notamment la plupart des jeunes à mourir dans cet état?
Oui, JR, les raisons évoquées par la police seraient liées à la consommation abusive par ces jeunes de toutes sortes d'alcool, du chanvre et du valium. À un moindre problème familial ou amical, ils n'hésitent pas à se donner la mort. Sur les effets alors. De la même manière, le maire de la ville pense que l'absence aussi de moyens de survie, de soutien et d'emploi pourrait justifier aussi ces multiples cas de suicide par pendaison. Voilà un peu ce qui est le phénomène pendaison qui est d'actualité ici à Kikwit ces derniers temps.
Voilà, nous pensons que le major Kaneo Passidi, qui est le commandant police criminelle détachement ville de Kikwit, nous apportera quelques éclairages là-dessus. Et puis nous aurons un autre invité, Sébastien Kaboué, qui est psychologue, pour nous expliquer un peu ce phénomène. Nous vous disons merci, Fabien, de nous avoir présenté ces dossiers, et à la prochaine.
À la prochaine, JR.
C'est obligé d'interrompre ce beau morceau de musique de Zaïko Langa Langa. Zaïko qui continue à séjourner en Europe. Hein, voilà, c'est un long séjour, à peu près de 3-4 ans d'ailleurs. Nous allons voir tous ces poulains et continuer encore à passer des bons moments, tantôt dans le studio, tantôt dans la rue, pour vivre au quotidien. Nos invités sont déjà en ligne et nous allons nous presser de le prendre pour avoir un peu quelques éclairages sur cette question des suicides par pendaison qui est devenu un phénomène, et ce phénomène prend alors de l'ampleur dans la ville de Kikwit. Il ne se passe pas un jour sans qu'on puisse enregistrer un cas de pendaison. Nous allons prendre le major Kaneo Passidi, qui est le commandant police criminelle détachement ville de Kikwit. Le major Kaneo, voilà, le major, vous êtes en ligne.
pays, bonjour.
Voilà, alors nous avons tous suivi le point que venait de faire Fabien Cambisi. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment un phénomène, le suicide par pendaison à Kikwit?
Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je crois bien, vous comme moi, même un observateur avisé, et conclure bien que nous sommes en train de traverser un phénomène dans ces derniers jours, la pendaison, pour bien dire.
Alors, on a, selon le point que nous a fait notre confrère, la plupart, disons, la majeure partie de cas, disons, de pendaison est beaucoup plus enregistrée du côté des jeunes dont l'âge varie entre 17 et 35 ans. Est-ce que vous, en tant que numéro 1 de la police criminelle, avez déjà eu à mener une enquête là-dessus? Vous pouvez nous dire, c'est quoi, qu'est-ce qui serait à la base de tout cela?
Merci beaucoup pour la question. La police criminelle étant une unité à vocation scientifique, non seulement que nous avons le devoir de réprimer, mais aussi nous avons le devoir de mener l'étude pour déceler des causes et pourquoi pas des conséquences sur ce phénomène-là. C'est comme vous l'avez dit tantôt, et le phénomène est plus observé à 60% au niveau des jeunes et à 40% au niveau des vieillards. S'il faut bien parler de drogue, disons, de la pendaison chez les jeunes, comme cause, nous avons stigmatisé quelques causes majeures qui sont surtout l'emploi de drogue au niveau des jeunes, la soif d'argent et les problèmes affectifs. Si vous permettez à ce que je puisse développer l'emploi de drogue, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui se livrent à l'emploi de chanvre, Valium, boissons alcoolisées et consorts. Et cela peut directement amener un jeune à poser l'acte sans toutefois se contrôler. Et c'est peut-être ça dans un premier temps.
Et pourtant, Bandundu n'est pas compté parmi les provinces qui cultivent le cannabis.
Bon, c'est comme vous l'avez dit dans les enquêtes menées, et ici peut-être nous invitons aussi l'implication de l'autorité politico-administrative sur la sensibilisation populaire. Et il suffit seulement de visiter des fermes, des plantations périphériques de la ville. Et sur les 10 champs qu'on peut visiter, au moins 6 peut disposer soit des 3 plantes de déchets, ce qui inquiète souvent l'autorité et la police qui nous sont.
Alors, quelles sont les mesures que vous avez prises pour ne fût-ce que réprimer ceux-là qui cultivent les cannabis et ceux qui en consomment?
Des mesures font partie de nos missions ordinaires. À chaque fois que nous tombons sur un cas, nous devons réprimer. On a toujours arrêté, on sanctionne, c'est toujours dans le sens de décourager. C'est ce que nous pouvons nous révéler ici comme notre contribution. Et juste, j'insiste, qu'en dehors de l'aspect répressif, nous invitons aussi l'implication de l'autorité à tous les niveaux. Au niveau des villages pour les chefs coutumiers, au niveau des secteurs pour les chefs de secteur, au niveau des territoires pour le patron du territoire. Je crois que l'aspect répression est réservé aux services qui nous sont. Et la sensibilisation est aussi un aspect majeur dans cette lutte contre la culture de chanvre.
Oui, Major Femou, on va revenir avec vous. Le temps de donner aussi la parole à Sébastien Caboué, qui est psychologue, qui va au moins nous dire l'état psychologique d'un fumeur de chanvre. Est-ce que ça peut l'amener, par exemple, à un suicide par pendaison? Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Est-ce que l'état psychologique d'un fumeur de chanvre peut normalement avoir comme conséquence le suicide par pendaison?
On dit souvent que ceux qui fument du chanvre, qui s'adonnent à tous ces produits-là pour s'enivrer, ainsi de suite, c'est là plutôt leur solution. Ils ont difficile à passer au suicide.
Alors,
le suicide lui-même, c'est un comportement qui cherche et trouve une solution à un problème dans le fait d'attenter à sa vie. Donc, quand on a un problème et qu'on n'a pas trouvé une solution, dans certains cas, alors on passe au suicide. On se dit, pour mettre fin à ma souffrance, je dois mettre fin à ma vie. Mais ceux qui commencent à fumer du chanvre, ils ont la chance de rester longtemps dans cette pratique de fumer du chanvre, parce que pour eux, c'est comme s'ils avaient trouvé une solution. Mais si vous trouvez quand même quelqu'un qui a fumé du chanvre, mais qui finit par se suicider, c'est que le chanvre ne l'a pas aidé à oublier ce qu'il avait comme problème, alors il passe à une autre solution, qui est le suicide.
Oui. Donc, vous confirmez le rapport entre stimulus et réaction.
Tout à fait.
Donc, à chaque stimulus correspond une réaction. Merci Sébastien Kaboué de nous avoir éclairé. Nous revenons à vous, Major Kano Passidé. Au jour d'aujourd'hui, vous comptez combien de cas déjà enregistrés de suicide par pendaison?
Bon, moi, je n'ai pas de statistiques à mes côtés, étant donné que j'avais d'autres préoccupations. Mais je peux vous dire, dans l'ensemble, si nous avons parlé non seulement du chanvre, et nous devons ajouter aussi un autre aspect pour ceux-là qui nous suivent, j'avais
oui, le psychologue aussi est allé, le psychologue est allé, d'ailleurs,
il y a des fois, suite à l'éducation très accentué où l'autoritarisme parental, les jeunes n'arrivent pas à supporter. Et comme contribution, on avait pensé aussi à ce que les parents puissent modérer aussi dans leur système d'éduqué, miser sur les 50% de l'autorité et 50% de liberté, puisque quand on est déjà jeune, et surtout on vous a parlé de l'âge de 25 à 30 ans, c'est un monsieur qui est déjà responsable de ses actes, et quand le parent doit l'éduquer, il doit avoir des actes dans le système d'éducation, et nous avons remarqué aussi que la colère peut aussi amener à beaucoup, et surtout quand la personne peut déjà décider sur la personne de son choix, et qu'il se voit vraiment étouffé par l'autorité parentale, il se livre à n'importe quoi. C'est aussi un aspect aussi.
Oui, alors là, on va donner la parole aussi à Sébastien qui est en ligne. Alors, Sébastien, quelle attitude avez-vous par rapport à la réaction de Major Kano?
Le Major a vécu le cas et il en parle. Ça veut dire que j'apprécie sa contribution comme un effort pour chercher à réduire les cas de suicide. Mais peut-être que si on avait beaucoup de temps,
oui, on pourrait prendre
les cas comme ceci.
Oui, Sébastien, monsieur Sébastien, vous êtes en ligne? Voilà, donc nous revenons au Major Kano Passidi, qui est le commandant de la police criminelle détachement. Major, on parlait de la statistique actuelle. Au jour d'aujourd'hui, nous avons combien de cas jusque-là enregistrés au niveau de suicide par pendaison dans la ville de Kikwit?
Et à cette question, c'est comme j'avais déjà présenté mes excuses sur des cas à évoquer, puisque je ne suis pas à côté de ma documentation. Mais toutefois, nous avons estimé ça en termes de pourcentage. Nous avons dit qu'il y avait 60% observé chez les jeunes et 40% chez les vieux. Nous avons parlé, nous avons épinglé la situation dans les 60%. Il est temps pour nous aussi de parler des 40% constitués par les vieux. Et en termes de pourcentage, c'est ça, mais quand j'aurai à pénétrer ma documentation, je vais vous révéler les statistiques possibles.
Alors, quelle est l'action que vous comptez mener pour peut-être éradiquer le phénomène ou peut-être l'empêcher à évoluer à une grande vitesse?
Bon, nous avons, c'est comme je l'avais dit tantôt, que cela entre dans nos missions ordinaires en tant que police. Quant aux jeunes gens, il y a des patrouilles, il y a des rondes qui se font dans des quartiers périphériques. Si une fois, celui qui emploie les chiffons est surpris par les éléments de la police, il est arrêté et conduit devant les instances qui s'en occupent. Je crois que la meilleure façon pour nous d'éradiquer le phénomène, À ce qui nous concerne, nous, en tant que policiers, c'est la première mission pour décourager, on arrête les récalcitrants qui sont punis et conduits à acquis des droits.
Voilà, donc on va encore accorder la parole à Sébastien Caboué, qui est psychologue, qui réagissait, qui avait une attitude par rapport à ce que vous avez dit avant. Sébastien, vous êtes en ligne? Voilà, décidément, c'est comme si vous n'étiez plus avec nous. Alors, on va poursuivre notre entretien avec le Major Camus.
Oui, Major, c'est bien de préciser à nos auditeurs, parce que nous avons appris, selon notre confrère, que la plupart des jeunes gens aujourd'hui qui quittent ont le regard tourné vers l'Angola pour l'exploitation du diamant. Et avec les expulsions qui ont eu lieu dernièrement, la plupart sont revenus, mais bredouilles, sans emploi, raison pour laquelle aujourd'hui ils se sentent abandonnés. Et c'est peut-être ça aussi qui ferait que la plupart aujourd'hui, en tout cas vous avez dénombré 20 cas, la plupart, bon nombre aujourd'hui se suicident. Est-ce que c'est lié également avec les expulsions en Angola, selon vous?
Bon, je ne saurais pas dire dire autrement, mais sinon, dans les causes évoquées, j'avais parlé aussi du problème du chômage. Il y a beaucoup de garçons à l'âge du travail, par manque d'occupation et d'activité, vivant dans le désespoir, ils ne peuvent que se livrer à ces actes et se donner la mort. C'est aussi un aspect, puisque pour un jeune qui était déjà habitué à des fric, et qui se voit aujourd'hui placé dans des conditions telles qu'il ne sait pas faire, alors troublé par les émotions, il ne peut que mettre ça à ses jours. C'est pourquoi j'avais parlé aussi du problème de chômage, sans évoquer la liste des causes énumérées.
Oui, mais Major, parmi les 20 cas que vous avez dénombrés, quelles étaient en fait les occupations de ces jeunes qui se sont suicidés? C'était quoi leurs occupations?
Je peux donner l'exemple du cas qui venait de se passer vers le quartier Mwangadibaya. C'est un monsieur qui était déjà habitué à l'argent, étant dans le chômage, il s'est livré, il est allé soustraire l'argent de sa grand-sœur, par peur qu'il soit, par ceux-là qui les connaissaient mieux. Vraiment, il a décidé amplement de donner la mort pour éviter les critiques autour de lui.
Ce n'était pas un moine à Lunda, c'est un monsieur qui avait une occupation là-bas à Kikwit.
Bon, c'est comme je dis, la plupart de nos jeunes vivaient de notre côté de frontière. Ils sont ici sans emploi ni quoi. Comprenez ce que vous devez comprendre dans ce sens-là. Pour un monsieur qui était habitué à des fric, qui est placé dans des conditions de désespoir, il ne peut que se donner la mort, madame.
Mais oui, alors à vous, à votre niveau, Major Canon, nous rappelons que vous êtes commandant de police criminelle détachement. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez eu à faire concrètement pour éviter que cela ne se répète? Parce que bon, il faut craindre qu'on puisse encore avoir d'autres cas de pendaison dans les jours à venir.
Et moi, je pense à cet aspect des choses, c'est comme j'ai évoqué l'implication de l'autorité qui essaie l'habileté à sensibiliser la population. Moi, en tant que policier, je me limite au niveau de l'aspect répressif. S'il faut impliquer l'aspect éducatif, c'est la relève de l'autorité politique administrative.
Certainement, vous avez certainement raison, mais est-ce que vous êtes entré en contact avec l'autorité administrative? Pourquoi pas le maire, encore le gouverneur du Bandundu?
Moi, je pense que l'autorité n'a cessé de sensibiliser. Il n'y a pas longtemps qu'on avait organisé des journées de sensibilisation à travers toutes les communes. Je crois que pour une personne avisée, chacun a tiré quand même le minimum de profit.
Mais l'idéal aussi serait que vous fassiez des descentes dans les différentes communes de Kikwit pour voir quelles sont les occupations de ces jeunes gens, parce que sinon vous aurez du pain sur la planche dans les jours à venir.
Oui, nous cessons de le faire, je crois, avec toutes les unités spécialisées dans les domaines. Il y a des patrouilles qui s'organisent, il y a des rondes qui s'organisent, c'est juste dans le sens d'éradiquer. Je pense aussi un aspect non négligeable, c'est dans les 40%, puisqu'il fallait qu'on parle aussi autour des femmes.
Oui, parce que nous allons revenir autour des 40%, mais prenons d'abord le psychologue qui est à nouveau en ligne. Monsieur Sébastien, mis à part la cause sur la consommation abusive de chambres, le major a évoqué aussi le chômage. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui seraient également à la base de cas de suicide par pendaison?
Merci beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je vais en citer peut-être quatre. C'est d'abord l'impression qu'on n'arrivera jamais à se faire aimer de personne. On se sent inutile sur le plan social. La deuxième, c'est qu'on a perdu peut-être quelqu'un qu'on a aimé beaucoup. Mais surtout l'absence d'un confident. Parce que tous ces problèmes, quand ils assaillent quelqu'un, on parle surtout ici d'adolescents, parce qu'ils viennent de perdre leur enfance. Ils commencent à accéder à la vie d'adulte. Et quand ils sentent qu'ils ne sont pas compris, qu'ils ne sont pas aimés, ils finissent par dire « Alors je me supprime parce que je n'aurai personne pour m'aimer. » Et surtout, quand on n'a pas de confident, ça veut dire « La confidence, dit-on, elle noie la douleur. » Mais quand on ne se confie plus en personne, on trouve qu'il n'y a personne pour me comprendre. C'est là où on passe progressivement vers le suicide. J'ai connu un cas où un jeune homme est venu carrément me dire, écoutez, si on ne me voit plus, consolez ma mère. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je l'ai invité à me parler davantage. Et quand il m'a parlé, c'était exactement ça. Qu'il n'était pas compris en famille, qu'il n'avait pas été compris même pendant qu'il était encore aux études. Il venait de finir l'université et il semblait toujours que la famille n'arrivait pas à le comprendre. La solution, il voulait mettre fin à sa vie. C'est pourquoi, quand l'intervenant qui parlait de Bandundu dit qu'il faut renforcer les mesures contre la consommation du chanvre, et même des mesures répressives, moi je dis, il faut ajouter plus l'écoute, qu'on arrive à trouver des structures qui permettent aux jeunes d'être écoutés, d'être aidé, qu'on sache quelles sont les préoccupations, dont le chômage. Comment faire pour trouver une solution au chômage et à d'autres problèmes afin que ces jeunes gens ne passent pas au suicide.
Voilà, d'accord, nous allons évoluer avec vous. Il y a Monseigneur Joseph Mundongo, qui est président de l'ECC Bandundu, qui, en parlant toujours de ces phénomènes, a évoqué six causes qui seraient à la base de ces phénomènes, notamment les quatre causes liées à la pauvreté et les deux autres liées disons, aux ressources spirituelles de la partie du pays. Est-ce que vous êtes quelle est votre attitude par rapport à ces deux causes, dernières causes?
Les deux dernières causes peuvent s'ajouter, hein, mais j'ajoute toujours que ce qui manque, c'est l'absence de quelqu'un qui puisse les soutenir. L'absence de quelqu'un qui, pendant tous ces problèmes, parce que tous ces problèmes sont communs à tout le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est que pour les gens, même dans le chômage, même dans des problèmes spirituels, ils trouvent des confidents qui leur servent de soutien, pour leur donner un espoir d'aller encore de l'avant.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, disons vous en tant que psychologue, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les attitudes à adopter, quel comportement adopter pour pouvoir éradiquer, ne fût-ce que, si pas éradiquer, mais diminuer ne fût-ce que le taux de cas de suicide par pendaison?
Ce qu'il faut faire, je crois que, avant toute chose, amener les jeunes gens qui présentent déjà des signes de détresse, les amener à parler et les aider à chercher des solutions à leurs problèmes. Ça, c'est de un. De deux, sur le plan de développement, faire de sorte que dans l'environnement, les problèmes sociaux, les problèmes économiques puissent trouver des solutions. Parce que les jeunes gens qui obtiennent leur diplôme, mais qui ne trouvent pas du travail, et qui ne savent pas se marier, qui ne savent pas se construire ou se loger, mais ça, ce sont des cas de soucis qui amènent certains à trouver une solution suicidaire comme celle-là. Et organiser des occasions, des rencontres, même des clubs d'écoute. Ailleurs, on organise on forme sur le plan social des personnes qui peuvent écouter les jeunes, auprès de qui ces jeunes peuvent aller se confier. Et alors ces personnes-là pourraient, au-delà de l'écoute, aider à l'accompagnement de ces personnes en situation difficile pour éviter que ces personnes ne sombrent dans le suicide. Et voilà un peu, au lieu de les isoler, parce que quelqu'un qui veut se suicider commence par s'isoler. Et si on peut le récupérer dans son isolement pour le remettre dans le groupe des autres, permettre qu'il puisse échanger avec les autres et comprendre qu'il y a de l'espoir, on peut diminuer le nombre de cas de suicide.
Oui, mais qui va les récupérer? Vous l'avez dit, ce sont des personnes qui vivent seules, ce sont des personnes qui prennent du chanvre, ce sont des personnes qui sont abandonnées à leur triste sort, alors finalement, qui va les récupérer? C'est ça la grande question.
Ah oui, la grande question. Nous disons souvent que hier nous avons beaucoup de ministères. Hein? Nous avons entre autres le ministère des Affaires sociales, qui pourrait voir dans quelle mesure organiser des services sociaux dans ce sens-là, et former, pourvoir à la formation des éducateurs sociaux, faire de sorte que dans les milieux urbains comme ceux-là, comme dans toutes les autres villes, qu'on ouvre petit à petit des centres d'accompagnement de ces personnes qui vivent en souffrance et qui sont utiles pour notre pays. Parce que ces personnes-là, récupérées, ce sont des personnes qui peuvent aider le pays dans tel ou tel domaine, mais qu'on laisse comme ça se perdre. Et parfois qu'on condamne même, on dit qu'ils se sont suicidés, mais on ne comprend pas qu'ils voulaient résoudre un problème et qu'ils n'ont pas trouvé des ressources. Voilà pourquoi ils se sont éliminés.
Le danger aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes gens qui quittent sont désœuvrés, raison pour laquelle ils se suicident, ils n'ont pas d'activité, beaucoup évoluent en Angola, où ils allaient chercher les diamants, mais nombreux parmi eux ont été expulsés, du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien, raison pour laquelle aujourd'hui ils ont l'impression qu'ils sont abandonnés. L'idéal serait qu'ils trouvent du travail, c'est ça qui pourrait les sauver, mais tant qu'ils n'auront pas du travail, ils vont continuer à broyer dans le noir.
Vous avez pleinement raison. C'est pourquoi même dans le chômage, on peut toujours avoir un service social qui pourrait accompagner ces gens dans la lutte contre le chômage pour trouver ne plus que ce qu'on appelle de petites activités génératrices de revenus qu'on peut monter si on était soutenu. Si le gouvernement, si le ministère pouvait penser à ces jeunes-là, c'est une population, c'est la population active, c'est la richesse de notre pays. Et on ne peut pas les abandonner comme ça. On doit comprendre, comme vous faites bien l'analyse, ils étaient quelque part où ils étaient utiles. Ils ont été refoulés. Alors ils se sentent maintenant inutiles, et à eux-mêmes, et à la population. Est-ce qu'on peut les laisser dans ce sentiment d'inutilité? Je dis non. Il faut un travail, un accompagnement qui puisse les amener petit à petit à accepter d'abord que c'est une situation qui est arrivée et que l'homme, s'il est réfléchi, il arrive toujours à surmonter ses difficultés et vivre autrement.
Oui. Alors, M. Sébastien, restez toujours en ligne. Nous revenons à vous, Major Cano, aujourd'hui par rapport à la réaction de Sébastien. Nous aimerions un peu savoir, est-ce qu'il y a des ONG qui travaillent dans les secteurs de jeunes, disons au niveau des Kikwit?
Bon, si vous pouvez répondre à la question, j'espère.
Nous voulons savoir s'il y a quand même des ONG qui évoluent à Kikwitville. Est-ce qu'il y a des ONG qui travaillent dans les secteurs des jeunes, les secteurs de l'éducation?
À cette question, vraiment, il me serait difficile d'y répondre. Oui. Surtout que ce sont des ONG. Moi, je suis en train d'œuvrer dans un secteur de clandestinité. Les rapports sont des fois non planifiés, je ne saurais pas vraiment répondre à la question.
Ben alors parlons de 40%, parce qu'on venait là de parler des jeunes qui sont victimes parfois à 100%, et les 40% ce sont des adultes, des vieilles personnes. Quelles sont les causes qui font que le vieux se retrouve aussi dans des telles situations?
Oui, c'est comme je le disais tantôt, dans l'étude que nous avons menée, les 40% étaient beaucoup plus remarqués que les vieillards. Et comme cause, nous avons découvert que la plupart de ceux qui se donnent la mort, c'est suite à des calomnies. D'où provient la calomnie? C'est comme, je le dirais aussi tantôt, d'après notre constat, il n'y a jamais eu la mort naturelle à Tipito. Je le dis et je souligne qu'il n'y a jamais eu mort naturelle à Tipito. Cela revient à dire, à chaque fois qu'il y a la mort qui surgit au sein de telle ou telle famille, les avancés en âge sont tenus pour des boucs émissaires. Et des fois, par peur ou par panique, par déshonoration, les vieux réalisent par se donner la mort. Je crois aussi, la plupart des cas chez les vieux, c'est autour de la calomnie. La calomnie engendrée parfois par des morts qui frappent des familles ou des vieillards en âge sont tenus pour des boucs émissaires.
Donc, Sébastien, je crois que vous êtes de même avis que le major Camus.
Non. Je veux seulement éclairer que c'est encore une fois le fait que ces vieillards ne trouvent pas l'occasion de se faire entendre comme responsable de la mort. Alors ils disent bien, tout ce que je peux faire, c'est m'éliminer moi-même et on verra s'il n'y aura plus d'autres morts. Et encore le sentiment d'inutilité auquel j'avais fait allusion, si ces génias ne pouvaient pas accuser d'être sorciers, si ces génias étaient entourés de leur pour se sentir encore utile, ils ne se donneraient jamais la mort. Ils se donnent la mort quand ils trouvent qu'ils sont inutiles. Au contraire, on les accuse même d'être responsables de la mort des jeunes, parfois de membres de leur famille. Alors ils se disent bien. Si tu me comprends, il n'y a personne.
Mais alors, Sébastien, quoi, ben, comment est-ce qu'on peut donner de l'utilité à un vieillard qui est fatigué, qui n'a rien à faire? Qu'est-ce que les habitants pourraient faire, hein, justement, pour ne pas en arriver là?
Merci beaucoup. Mais les habitants devaient d'abord comprendre que ces vieillards dans les villages où il n'y a pas de bibliothèque, ce sont les seules bibliothèques que l'on a. Et on pouvait les valoriser à ce titre-là. Ce sont ces vieillards qui peuvent raconter des histoires du passé à la jeune, aux jeunes générations. Et pour comprendre aussi que ces vieillards, mais s'ils étaient vraiment sorciers, ils allaient bouffer les autres avant qu'ils deviennent adultes. Mais ce n'est pas maintenant qu'ils sont très vieux, parfois qu'ils n'ont plus de dents, qu'ils ont besoin de manger de la chair. Donc, vous voyez, c'est tout cela. Apprendre à valoriser les autres. Apprendre que dans ce domaine-là, il y a quelque chose que l'on peut tirer. Et ce n'est pas seulement la force physique qui fait de nous, des hommes et des femmes.
Monsieur Sébastien, il y a des comportements qui, du reste, se détachent difficilement de l'homme. Nous, même si on sensibilisait, même si on accompagnait les gens, cette difficulté ne sera pas écartée.
Hein. Vous avez raison.
Par rapport aux jeunes.
On a remarqué d'ailleurs que de plus en plus, on adopte le modèle européen où les vieillards sont placés dans des hommes. C'est peut-être une des solutions, mais que dans ces hommes-là, ce ne soit pas comme une pratique d'exclusion, mais que même dans ces hommes, qu'il y ait des éducateurs sociaux formés pour les accompagner afin qu'ils meurent quand même dignement. Parce que je crois que toute personne humaine, infirme ou non, nous avons tous droit à une vie humaine digne.
Voilà, nous sommes tous des personnes à part entière. Sébastien Coab, nous rappelons que vous êtes psychologue. Major Camus Passidé, vous êtes commandant police criminelle, détachement vide et équipe. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Et à moi de vous remercier.
Au Capiaxon, Nicole Ngaka et J.R. Lumumba.